13h-14h, Michel Cardoz, Histoire des Suds, sur Sud Radio.
Décembre 1851. De la Provence à la Gascogne, résistance et insurrection face au coup d'État de Louis-Napoléon, nous sommes avec René Merle, historien spécialiste de cette période, créateur avec d'autres amis et historiens du site 1851.fr. Tout sur cet épisode de notre histoire républicaine et autres. Alors, comment la nouvelle du coup d'État du 2 décembre 1851 parvient en province, puisque là nous sommes dans les provinces du Midi. Alors nous parlerons de Paris aussi, là la nouvelle est instantanée, mais comment la nouvelle du coup d'État parvient, je ne sais pas moi, à Marseille, à Toulon, à Gap?
C'est une époque très proche de nous et en même temps très lointaine. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer que quelque chose aussi majeur qui se passe à Paris dans la nuit du 2 décembre ne puisse parvenir en province, dans le meilleur des cas, que le 3, voire le 4.
Quels sont les moyens de transmission?
Les moyens, c'est le télégraphe. Hein. Mm-hmm. Et donc, encore faut-il qu'il fasse beau, afin que les signaux soient perçus. Moi, j'ai toujours en mémoire cette dépêche suspendue de l'annonce du coup d'État, dont on ne sait pas comment elle se termine. Le préfet du Var, qui est un bon préfet, donc toujours du côté du Manche, ne sait pas de quel côté il faut pencher.
Parce que le mauvais temps a empêché la fin du message,
et voilà,
c'est ça?
Et voilà.
Bon, alors, en gros, ça met combien de temps pour parvenir?
En gros, ça met 24 heures, facile. Oui. Facile.
Il n'y a pas de messager physique, c'est le télégraphe.
Il y a des messagers physiques. Dans la périphérie parisienne, par exemple, bon, un bon cheval fait 30 km à l'heure. Hein.
Mmh. Est-ce qu'il y avait eu des arrestations préventives? Vous nous
énormément,
avez parlé hier.
Énormément, voilà. Énormément. L'Assemblée de l'Ordre Moral et son gouvernement avaient constamment réprimé l'agitation républicaine et donc énormément de cadres républicains les plus en vue depuis 1849 avaient été arrêtés et donc le mouvement se renouvelle de plus en plus par la base.
Mais sous quel prétexte était-il arrêté?
Délit de presse, délit de colportage, délit de parole, a pris la parole dans un cabaret, a crié « Vive la République démocratique et sociale », etc., etc.
Ah oui, démocratique et sociale,
oui,
ça
oui.
N'allait pas.
Oui, ça n'allait pas du tout. Et donc, il y avait énormément de gens en prison. Et puis, il y a eu de véritables provocations qui ont poussé à l'insurrection des gens à Lyon ou dans l'Allier, par exemple, en 1849. Lyon a été canonné. Toute la région qu'on appellerait aujourd'hui Rhône-Alpes était en état de siège depuis 1850.
Pour quelle raison?
Agitation républicaine.
Et cette agitation prenait prétexte de quoi? Comment? Vous avez parlé
de
provocation.
Il y a eu répression de manifestations républicaines à Paris. Et donc, les Lyonnais avaient cru devoir s'insurger contre cette violation de la démocratie. Et Lyon était une ville traditionnellement
bruyante. Oui, on a le souvenir historique des révoltes de Canut en 1832, donc c'est tout frais.
Et donc ça explique que Lyon n'est pas bougé en 51 parce qu'on leur avait cassé les reins. Mmh. Et puis il y a eu cette insurrection juste avant décembre dans les départements du Cher et de la Nièvre, dans cette vallée viticole qui nous est chère.
Le Sancerre.
Amateur de Sancerre. Mmh. Ces gens-là s'étaient insurgés en octobre déjà.
Et pour quelle raison?
Parce qu'il y avait dans le courant républicain deux tendances. La tendance, disons, légaliste, qui disait, à tous les coups, on aura un coup dur. Mmh. Mais il faut attendre qu'il y ait le coup dur pour réagir.
Oui.
Et puis, il y avait la tendance activiste qui disait, si on attend, on est foutu. Mmh. Il faut agir avant. Et ce fut le cas de ces gens-là. Ils se sont fait briser. Mais donc, ce qui explique que le Cher, par exemple, ou une partie de la Nièvre n'ait pas bougé en décembre, c'est qu'en octobre, ils avaient été liquidés.
On leur avait cassé les reins un peu trop tôt. Alors, dès que la nouvelle parvient, dans les mairies, dans le Var, dans les Basses-Alpes, dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Hérault, dans le Gard, et jusque dans le Gers et le Lot-et-Garonne plus à l'ouest, au nord, dans la Nièvre, on prend des positions et on s'insurge au sens propre du terme. Alors, sous quelle forme cette insurrection?
C'est toute la difficulté pour les historiens de dire quels furent les départements insurgés. Pour nous, un insurgé, c'est quelqu'un qui brandit un fusil, c'est quelqu'un qui va se battre. Pour eux, insurrection signifiait D'ailleurs, la formule est très belle. Le peuple reprend ses droits. Mmh. Le président viole la Constitution. Le peuple, qui a élu le président, destitue ce président et reprend ses droits à travers la municipalité, qui est le représentant direct.
Qui est le plus proche, en tout cas.
Le plus proche de la population.
Alors, on va dans les mairies.
On va dans les mairies, on demande au maire, es-tu ou pas partisan du coup d'État? D'ailleurs, c'est le maire lui-même qui recevait la dépêche et qui la lisait. Oui. Ben, es-tu d'accord? Oui, non, bon. Si tu n'es pas d'accord, on t'enlève, on te vire, on te remplace par un bon républicain, on désarme les gendarmes, ce qui n'était pas très difficile. Il y avait de toutes petites brigades de gendarmerie dans quelques communes et pas dans toutes. Donc la plupart de ces braves gendarmes furent désarmés. Et puis on attend. Mais c'est déjà un acte insurrectionnel.
Alors est-ce qu'on peut estimer le nombre de lieux d'insurrection immédiate et le nombre d'insurgés?
33 départements ont connu cette vague de prise de pouvoir municipal. Et donc, on peut considérer que 33 départements, qui sont essentiellement méridionaux, furent des départements insurgés. Sans pour autant qu'il y ait des violences, puisque les gendarmes n'étaient plus opérationnels. C'est seulement quand la force armée, quand la ligne est arrivée dans ces localités que combat il a pu y avoir.
Alors, quand on passe du refus du coup d'État, qui se passe dans le bureau du maire, dans la salle des délibérations, sur le perron de la mairie,
devant la foule assemblée,
le maire reçoit une dépêche qui lui vient de la préfecture, il la lit à ses administrés, et les administrés disent « Alors et toi, t'es d'accord ou pas ?» etc. Bon. Et à partir de là, à partir de ce refus, bon, on va passer à l'insurrection, on va expliquer tout ça dans un instant après une pause. Histoire des Suds, nous sommes dans le midi de la France, décembre 1851, le président de la République élu au suffrage universel masculin Louis-Napoléon Bonaparte vient de procéder à un coup d'État. Il prolonge son mandat, il dissout l'Assemblée nationale, il viole la Constitution, la nouvelle parvient dans les mairies, dans les préfectures d'abord et dans les mairies. Et dans le midi de la France, on refuse majoritairement ce coup d'État et on proclame l'état de reprise des droits. Le peuple reprend ses droits, autrement dit, c'est une insurrection. Comment, René Merle, passe-t-on de ce refus à l'insurrection? Pour nous, une insurrection, c'est quelqu'un qui prend le fusil.
C'est le combat. Eh bien, c'est très compliqué parce que Louis-Napoléon, qui était un homme extrêmement intelligent, je vous ai dit précédemment que le suffrage universel avait été amputé. Napoléon immédiatement rétablit la totalité du suffrage universel.
C'est un gros malin, quoi.
C'est un gros malin. Et il apparaît donc à beaucoup d'insurgés, à la fois comme celui qui viole la Constitution, puisqu'il n'avait plus le droit de se représenter au bout de 4 ans et qu'il s'institue président.
Il décide de prolonger son mandat.
Et en même temps, comme celui qui rétablit la souveraineté populaire, puisqu'il donne le droit de vote à la plupart de ces braves gens qui étaient assemblés devant le maire.
À ceux dont on avait privé ce droit, oui, voilà.
Complexité.
Auquel on avait enlevé le droit. Oui.
Complexité de la situation. Et donc, que choisir dans ces conditions-là? La majorité des républicains disent, il faut continuer à refuser. Et c'est à ce moment-là que les questions stratégiques se posent. Nous avons rétabli une mairie républicaine. Nous savons que dans les localités voisines, ça se passe de la même façon. Nous espérons.
Je suppose que vous nous parlez du Var, là, par exemple. C'est un exemple que vous connaissez bien.
Que je connais, puisque c'est mon département. Nous espérons que la France entière fera ce qu'il faut, mais nous, Varois, qu'allons-nous faire maintenant?
Donc, alors, quelle forme ça prend?
Quelle forme ça prend? C'est une forme composite. Par exemple, les gens de la région de Brignoles disent « Nous sommes en sous-préfecture, nous gardons la sous-préfecture, et puis après, on verra bien. » Mais la majorité des Varois pensent qu'il faut marcher sur la préfecture. La préfecture joue en quelque sorte le rôle de la capitale qu'il faut occuper.
Il faut prendre. C'est l'ancien château fort du Seigneur.
Absolument, c'est la Bastille.
C'est la Bastille qu'il faut prendre. Il existe, René Merle, un texte romanesque, Dans La fortune des Rougon, c'est un roman d'Émile Zola. Émile Zola a transposé une partie de ces événements dans ce roman. Je vais lire ce texte, cette page d'Émile Zola, où il raconte l'histoire d'une jeune femme qu'il appelle, lui, Miette. Elle s'appelait comment, dans la réalité ?
Elle s'appelait Césarine.
Césarine. Il aurait pu laisser le prénom, quand même. Oui. C'était joli. Mais pour une résistante au coup d'État, peut-être que ça l'a...
César.
Comme les jeunes d'aujourd'hui, ça le fait pas. Hein. Voilà, donc Émile Zola, qui est un romancier qui transforme le réel en le rendant encore plus vrai, raconte l'histoire que je vais lire. Après, vous nous direz où et comment ça se passe. Jamais Miette n'avait entendu dire du bien de son père. On le traitait ordinairement devant elle de gueux, de scélérat. Et voilà qu'elle rencontrait de braves cœurs qui avaient pour lui des paroles de pardon et qui le déclaraient un honnête homme. Alors, elle fondit en larmes. Elle retrouva l'émotion que la Marseillaise avait fait monter à sa gorge. Elle chercha comment elle pourrait remercier ces hommes doux aux malheureux. Un moment, il lui vint l'idée de leur serrer la main à tous, comme un garçon. Mais son cœur trouva mieux. À côté d'elle se tenait l'insurgé qui portait le drapeau, et pour tout remerciement, elle dit d'une voix suppliante « Donnez-le-moi, je le porterai ». Les ouvriers simples d'esprit comprirent le côté naïvement sublime de ce remerciement. « C'est cela » crièrent-ils, « la chante-greille portera le drapeau ». Un bûcheron fit remarquer qu'elle se fatiguerait vite, qu'elle ne pourrait aller loin. « Oh, je suis forte !» dit-elle, orgueilleusement, en retroussant ses manches, et en montra ses bras ronds, aussi gros déjà que ceux d'une femme faite. Et comme on lui tendait le drapeau, « Attendez !» reprit-elle. Elle retira vivement sa pelisse, qu'elle remit ensuite après l'avoir tournée du côté de la doublure rouge. Alors elle apparut, dans la blanche clarté de la lune, drapée d'un large manteau de pourpre qui lui tombait jusqu'aux pieds. Le capuchon, arrêté sur le bord de son chignon, la coiffait d'une sorte de bonnet phrygien. Elle prit le drapeau, en serra la hampe contre sa poitrine et se tint droite dans les plis de cette bannière sanglante qui flottait derrière elle. Sa tête d'enfant exaltée, avec ses cheveux crépus, ses grands yeux humides, ses lèvres entrouvertes par un sourire, eut un élan d'énergique fierté en se levant à demi vers le ciel. À ce moment, elle fut la Vierge Liberté. Les insurgés éclatèrent en applaudissements. Ces méridionaux à l'imagination vive étaient saisis et enthousiasmés par la brusque apparition de cette grande fille toute rouge qui serrait si nerveusement leur drapeau sur son sein. Des cris partirent du groupe. « Bravo la Chantegreille ! Vive la Chantegreille ! Elle restera avec nous ! Elle nous portera bonheur !» On l'eût acclamé longtemps si l'ordre de se remettre en marche n'était arrivé. Signé Émile Zola.
Superbe.
Alors, quel est l'épisode réel que Zola a transformé dans ce texte ou a utilisé ?
Zola, jeune républicain méridional, aixois, vient de lire l'ouvrage d'un journaliste républicain, Thénault.
Eugène Thénault.
Eugène Thénault, et ensuite d'un journaliste et publiciste varois, Noël Blanche, qui raconte l'insurrection. C'est la fin de l'Empire déjà, un empire qui se lâche un peu, qui autorise certaines licences, et donc Zola est fasciné par un épisode tout à fait réel que racontent ces deux historiens. J'aimerais être cinéaste pour représenter cette colonne. Il y a une colonne qui monte de l'arrière-pays toulonnais. Toulon a été immédiatement submergé par la troupe, mais les insurgés de l'arrière-pays marchent à travers cette dépression où passe l'autoroute aujourd'hui. Ils marchent vers le Luc. Au Luc, ils vont se réunir et ils attendent les insurgés des morts.
D'une autre colonne. On va raconter la suite de cette histoire dans un instant. Histoire des Suds, nous sommes en décembre 1851. Le coup d'État de Louis-Napoléon vient d'être perpétré à Paris. La nouvelle est parvenue en province et notamment dans les départements du Midi méditerranéen, Languedocien et Gascon. Les républicains s'insurgent et reprennent leurs droits. Et nous venons de lire un épisode remagnifié, si je puis dire, par Émile Zola dans son roman la fortune des Rougon. Il s'agit d'un cortège à la tête duquel se lève une jeune fille qu'il appelle Miette et qui dans la réalité s'appelait Césarine. René Merle, nous sommes au confluent de deux vallées, les cortèges s'attendent. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, bon, nous sommes donc à Vidauban, aux portes de Draguignan, aux portes de cette préfecture. Une masse d'insurgés, plusieurs milliers sont déjà venus du centre Var. Et de la montagne toute proche, de la montagne des morts, on entend résonner les tambours. On se demande si ce sont les tambours de l'armée ou les tambours de l'insurrection. Et on voit déferler la colonne des insurgés, des bouchonniers de la garde freinée, qui sont à la fois des ouvriers et des artisans, déjà fortement marqués par le coopératisme socialisme et fortement marqués par le féminisme socialiste, puisqu'il y a eu à la garde freinée une véritable magnification du rôle de la femme. Et il est tout naturel que en tête de la colonne de la garde freinée, il y ait un jeune officier de marine, le seul peut-être, Camp Doras, qu'on suivra jusqu'aux États-Unis pour la suite, qui soit passé du côté de la République et de l'insurrection, Ferrier, le Charron et sa femme, qui porte le drapeau, sa très jeune femme, Césarine, qui va porter le drapeau jusqu'à la défaite de l'insurrection. Et c'est la représentation de la déesse à la fois de la raison et de la liberté.
C'est un peu aussi le tableau de Delacroix.
Tout à fait.
C'est-à-dire il y a toute cette république au sein nu qui porte le drapeau.
Elle n'était pas sein nu, bien que les journaux réactionnaires, les bassement calomniés par la suite.
Oui, on l'a traité de pute,
absolument,
suppose.
Absolument, absolument.
Est-ce que dans les autres départements voisins du Var, des cortèges, des prises de préfecture, oui, je sais qu'à Digne, la préfecture a été prise, c'est le département des Basses-Alpes, des manifestations, des cortèges, des insurrections de même type que dans le Var se sont produites?
Bien sûr, je prendrai seulement deux exemples. Un département très peu peuplé, 150 000 habitants dans les Basses-Alpes. Si vous voyez ce couloir qui conduit à Digne à partir des confluents de la Durance, du pays de Forcalquier, du pays de Sisteron, du pays de Manosque, convergent 10 000 insurgés, paysans et artisans, qui s'engouffrent dans ce chenal qui va jusqu'à Digne et qui occupe la préfecture. Le préfet a fui, l'armée n'ose pas résister, elle s'enferme dans sa forteresse, et donc le pouvoir est pris à Digne. De la même façon, dans la Drôme, des colonnes d'insurgés descendent sur Die, sur Crest, mais là, c'est à coup de canon qu'on essaie de les dissiper. La bataille dure deux jours. Par contre, dans l'Hérault, c'est tout à fait différent.
Voilà, j'allais vous poser la question. Dans l'Hérault, la chose est très, très différente. On oppose
les paysans du Bétérois descendent sur Béziers et occupent avec les républicains de la ville la place forte. Ils sont doux, bénins et gracieux. Ils croient qu'il suffit de dire au préfet, voilà, nous sommes là en force, donnez-nous le pouvoir.
Donnez-nous
et le préfet fait tirer le canon.
Oui.
Et donc, il y a des dizaines de morts et de blessés sur le pavé de la place centrale. À partir de là, les paysans refluent vers leur localité et les occupent, Montagnac, Pézenas, etc., tiendront jusqu'à la défaite finale de l'insurrection, jusqu'au 12, jusqu'au 13.
Alors, quand on se promène sur le site de votre association, 1851.fr, on découvre, par exemple, que entre le Var et la Drôme, il y a des différences énormes. Expliquez-moi ces différences.
Ben, ce sont des différences à la fois sociologiques et politiques, peut-être. Dans la Drôme, on a un département qui a une forte tradition protestante, donc une tradition à la fois républicaine, puisque la République a donné la reconnaissance du culte, et une tradition très légaliste.
Voilà, de soumission au pouvoir. On obéit au pouvoir.
Donc, il y a beaucoup d'indécision dans la Drôme, avant de savoir si véritablement il faut y aller. Mais quand on y va, on y va.
Oui, oui.
Donc on a combattu et devant le canon que tirait l'armée de Crest, on a résisté. Dans le Var, on est beaucoup plus comment dirais-je, il y a une tradition de, on est passé du blanc au rouge dans le Var. Il y a une tradition d'hostilité au pouvoir. Il y a une tradition de
refus, de rébellion.
Voilà, de prise de distance à tout le moins. Et donc cette prise de distance aussi violente a-t-elle pu être dans les mots, mm-hmm. a peut-être été moins violente dans les actes.
Voilà, c'est le paradoxe.
Absolument.
Autre fait qui peut expliquer que, par exemple, dans les villes, on a très peu bougé, du moins dans le midi de la France, c'est cette histoire de révolte précédente. En 1840, m'avez-vous raconté,
oui,
c'est une révolte qui est peu connue.
C'est l'historien Caron, Jean-Claude Caron, qui récemment a exhumé un épisode qui pourtant était majeur et bien connu sous la monarchie de Juillet, ce qu'on appelait à l'époque l'été rouge, c'est d'ailleurs le titre de son bouquin. Pour protester contre une augmentation de l'impôt sur les portes et fenêtres, la plupart des grandes villes du Midi se sont soulevées. Mmh. L'insurrection, par exemple, a été très violente à Toulouse. Elle a triomphé pendant une semaine.
Alors que pendant la révolte contre le coup d'État, Toulouse n'a pas bougé.
Toulouse n'a absolument pas bougé. Clermont-Ferrand, par exemple, s'est soulevé. Alors que donc il y a un contraste entre l'insurrection
contre l'impôt sur les portes et fenêtres, qui, en gros,
urbaine
et qui correspond à la carte de l'Occitanie.
Ah, tout à fait. Mmh. Et l'insurrection rurale, ou des petites villes de 1851, mais qui n'a pas touché les grandes villes. Mmh. Beaucoup plus quadrillée par l'armée, mais peut-être déjà ailleurs, au plan psychologique. Le passage à l'insurrection, ce passage à la violence, c'est en fait le dernier acte, avant la Commune, d'un épisode de violence collective que nous n'avons plus connu depuis.
Mais la Commune, c'est la fin du Second Empire. Il faut passer d'abord par la réussite du coup d'État de 1851. On marque une pause. Histoire des Suds. Nous sommes en décembre 1851. Louis-Napoléon, élu au suffrage universel président de la République, fin 48, a perpétré un coup d'État et prolongeant son mandat contre la Constitution qui lui interdisait de continuer à l'exercer. Et les républicains du Midi de la France, surtout du Midi de la France, bien qu'il y ait eu des réactions ailleurs aussi, et jusque dans le Cher et dans la Nièvre, au Creusot, et à Paris, mais on en parlera tout à l'heure, les républicains donc reprennent leurs droits, selon l'expression du temps, et passent à l'insurrection. Nous sommes avec René Merle. René Merle, qui est ce Macan dont je vais lire un texte racontant un épisode devant la mairie de Lorgues? Lorgues, c'est dans le Var.
Macan, c'est un avocat, un journaliste, un poète provençal qui
vous avez le sourire en parlant.
Oui, j'ai le sourire parce que il s'était commis avec un autre poète provençal qui s'appelait Roumani et il utilisait le patois pour essayer de persuader les paysans que les partageux allaient prendre le pouvoir. Il les appelait les salsissaires et ceux, non pas les socialistes, mais ceux qui allaient se partager la saucisse, quoi.
Les saucissonneurs.
Les saucissonneurs. Mmh. Et bon, à mon avis, c'est le type même de tous les pétainistes à venir, quoi. Mmh.
Alors voilà, oui, là vous faites un peu d'anachronisme, mais bon, libre à vous. Alors, je vais lire ce texte de Macan qui décrit une colonne insurrectionnelle devant la mairie de Lorgues. Les défenseurs de l'hôtel de ville se pressant aux fenêtres et sur le balcon voient défiler, immobiles et muets, les bandes anarchiques traînant après elles de nombreux prisonniers, parmi lesquels ils ne peuvent remarquer sans frémir d'indignation un prêtre et un pauvre vieillard grelottant de froid sur une charrette. Ces bandes sont sordidement vêtues et mal armées de mauvais fusils, de faux, de haches, de bâtons, de vieux sabres, de faucilles. Faucilles, déjà. Une jeune femme coiffée du bonnet phrygien, couverte d'un large manteau bleu, marche entourée de cantinières aux éclatantes écharpes et porte un immense drapeau rouge. On distingue dans cette masse incohérente d'hommes recrutés en partie par intimidation et laissant deviner sur leur visage une contrainte secrète, quelques chefs couverts de burnous et de paletots. On dirait une parodie de 93, des femmes et des enfants déguenillés se font remarquer par leur exaltation. Dites-moi, René Merle, mais dans ce texte, ça reprend la même scène que ce que nous avons lu précédemment, avec Césarine transformée par Zola en...
Absolument.
Voilà, c'est le même cortège et la même jeune femme. Alors là, Macan la transforme en une espèce de sorcière rouge, quoi.
La localité que Zola appelle Flassan, c'est l'orgue.
C'est l'orgue.
Et cette localité est une qui est proche de Draguignan, est une localité blanche, une localité conservatrice. Alors les conservateurs de l'orgue ont fait preuve d'un courage énorme lorsque la colonne rouge est arrivée. Au lieu de la combattre, ils se sont effectivement réfugiés dans la mairie et ils ont assisté au passage tout à fait pacifique de cette armée hétéroclite, en fait.
Mais dont le récit est transformé par l'horreur du...
Mais ils se sont signalés, ces mêmes macanistes, par quelque chose d'épouvantable, c'est-à-dire que après la défaite des Républicains, à quelques kilomètres plus au nord, à Ops, ils ont alors là organisé des brigades de chasse aux rouges dans la campagne.
Pour être supplétifs de la répression qui allait s'abattre.
Et ils en ont fusillé, sans aucun danger. Voilà.
Je vais lire un autre texte qui nous vient d'une lettre du procureur du tribunal de Toulon à un juge de paix. Elle date du 12 décembre. Donc là, au fond, les choses sont réglées.
C'est fini.
Il s'agit d'organiser la répression, mais surtout de la justifier d'une certaine manière. Et le procureur raconte au juge de paix, pour le stimuler dans son action, parce que peut-être il se plaint un peu de l'inertie de ce juge de paix, et il veut le stimuler. Voilà ce qu'il écrit. « J'ai assisté ces jours derniers à des scènes de désolation sans nom, tristes et funèbres témoignages de la plus effroyable désorganisation morale. » Vous savez les événements si douloureux dont la commune de Cuers a été le théâtre. Vous savez avec quelle cruauté barbare a été accompli le meurtre du malheureux brigadier Lambert. Vous savez que ces hommes, après l'avoir lâchement assassiné, ont battu son cadavre et se sont livrés autour de lui au mouvement d'une joie hideuse et féroce. Vous savez qu'ils ont traîné dans la rue, meurtri de coups, jeté au fond d'une prison l'honorable et digne maire de cette localité, Monsieur Barallier, et qu'ils se sont ensuite abandonnés au pillage. Vous savez encore quel deuil a semé sur son passage à travers notre malheureux département cette bande d'insurgés vaste jacquerie organisée pour le vol et l'assassinat dont les cruautés sont sans précédent dans l'histoire. Alors, à quoi ça correspond cette histoire de meurtre d'un brigadier, de son cadavre autour duquel on danse? C'est au fond une espèce de répétition de sabbat, ça, hein?
C'est à la fois la jacquerie qui remonte des siècles moyenâgeux, et effectivement la primitivité, la sorcellerie populaire d'une paysannerie qui n'est pas civilisée. D'ailleurs, on disait dans la presse de l'époque que ces Basalpins et ces Varois étaient des Bédouins de l'intérieur, c'est tout dire.
D'où le mot burnous dans une des descriptions, là.
Mais, en fait, ce qui s'est passé à Cuers, ce qui est profondément triste, c'est que dans un mouvement de foule, un brigadier a essayé, a brandi son arme, et un insurgé a effectivement abattu ce brigadier. Il s'en est expliqué en disant ensuite, je n'ai pas voulu viser, mais enfin bon, il y a eu meurtre c'est le seul gendarme qui ait été tué dans le Var. Après cela, la foule s'est dissipée à Cuers, les gens tristement sont rentrés chez eux. Quelques heures après, l'armée est arrivée à Cuers et commettait un massacre. La population de Cuers a été victime d'une répression inouïe, des centaines d'arrestations. Et il n'y a eu tout ce que le récit
procureur
affirme est complètement faux. Il n'y a pas eu de Saturnale autour du cadavre, etc., etc.
Mais ça faisait partie des fantasmes des possédants.
Ça fait partie de tout ce que la presse conservatrice a dit après le coup d'État, à savoir que l'insurrection avait été une jacquerie de violence, de viol, etc. Et d'ailleurs, il y a, par exemple, dans le Jura, où l'insurrection a été puissante, il a fallu que ce soit les prêtres qui disent « Mais il n'y a jamais eu de viol chez nous. Personne n'a été violé. Je peux vous affirmer que Madame une telle était réfugiée au presbytère et elle est ressortie intacte. »
Si le curé le dit, ça doit être vrai. René Merle, on vient de passer une deuxième journée avec vous et avec les réactions républicaines et insurgées au coup d'État de Louis-Napoléon le 2 décembre 1851. Nous récidivons demain.